5. Balzac avait plutôt des soudainetés, des bouffées dramatiques qui, selon les diverses températures par lesquelles passait son esprit si inflammable, devenaient des tempêtes et des ouragans, que le désir continu et sérieux d'une vocation pour le théâtre. Ses intempérances le saisissaient d'ordinaire quand il se produisait autour de lui quelques grands succès de pièces. La fumée du vin bu ailleurs l'envahissait alors, lui montait énergiquement au cerveau, et pendant un mois, deux mois d'ivresse souvent, il ne rêvait à tout propos que drame historique, mélodrame forcené, comédie de mœurs. Pièce pour la Porte Saint-Martin, pièce pour la Gaîté, les barbes de sa plume frémissaient. Il fallait travailler, oh, comme il allait travailler, pour M. Sanson, pour Mme Dorval, pour M. Frédéric Lemaître, pour ce dernier surtout qu'il admirait à la fois avec le gros fanatisme irréfléchi du peuple et qu'il appréciait avec son tact si fin et si magnétique. Je ne vois guère que Mademoiselle Rachel, qui l'accepta un peu dans sa grande levée d'artiste, et l'exclusion va tout de suite s'expliquer. Rien ne tournait moins d'abord au genre tragique, genre nu, que l'imagination complexe de Balzac. Ensuite, il faut aussi le dire, rien chez lui ne tendait, même un tant soit peu, vers la poésie. N'allez pas vous méprendre, nous entendons ici par poésie la forme rimée seulement. On ne voudrait pas nous faire dire que Balzac n'aimait pas la pensée idéalisée, le choix dans les images, l'aristocratie dans l'expression, certaines vérités d'exquises conventions reçues entre les gens de goût depuis plusieurs siècles, c'est-à-dire la poésie. Balzac n'aimait pas les vers, voilà. Il les respectait infiniment, mais il ne les lisait guère. Du reste, il avait faiblement la conscience de leurs difficultés. Il louait au hasard, au vol, s'échouait à froid. Son admiration tirait au jugé, comme dirait un chasseur, et quand il avait récité quelques lambeaux des Méditations ou des Orientales, vanté Racine parce qu'on lui avait fait croire que Racine avait, comme lui, excellé à peindre les femmes, sa dîme d'enthousiasme à la poésie était payée. Il rentrait tranquillement dans sa prose, avec sa quittance dans la poche, et de longtemps il n'était plus question de vers au jardin. Qu'il me soit encore permis ici, toujours pour bien faire comprendre la clémence d'esprit de Balzac à l'endroit de la poésie, de rappeler une soirée fameuse, à laquelle nous assistâmes, lui et moi, au Théâtre Français. C'était la première représentation des Burgraves. Victor Hugo nous avait envoyé un billet de balcon de deux places. Le sort de l'ouvrage ne fut pas longtemps indécis. Les désapprobations, les rires, les murmures, les moqueries, les sifflets se croisèrent bientôt sous nos pieds, sur nos têtes, devant nous, derrière nous. Belle bataille, les dragées du baptême dramatique auquel nous sommes tous exposés, depuis les plus hauts jusqu'aux plus humbles, pleuvaient comme grêle et grelon, sans pitié, sans merci, sur Otto et sur Guanumara. Le fond de la fête était une gaieté universelle, une jubilation satanique. C'était le rire putride des premières représentations contrariées. Les envieux rient noir, les jaloux rient jaune citron, le public, ce grand enfant, rit bêtement parce qu'il voit rire. À ce moment, je me sens frappé sur l'épaule par Balzac, placé au-dessus de moi. Je me retourne et je vois Balzac qui riait aussi, mais sournoisement, en manière de conspirateur, et comme pour me rendre complice de l'hilarité empoisonnée dont il venait, lui aussi, d'être atteint. « Comment trouvez-vous cela ?» me demande-t-il. Je lui réponds sérieusement, « Je trouve cela admirable, admirable, admirable. Depuis Dante, soyez-en convaincus, il n'a rien été écrit d'aussi beau, d'aussi grand, d'aussi sublime, dans aucune langue. » « C'est aussi mon avis, » reprend Balzac, qui ne s'attendait pas à cette réponse, ou qui peut-être aussi l'attendait pour savoir quelle partie il prendrait dans la question qu'on égorgeait devant nous. À partir de ce moment, les Burgraves allèrent au nu dans son opinion de la soirée. Bien d'autres exemples attesteraient son peu d'aptitude à goûter la pensée sous l'enveloppe féerique du vers. Quand la fièvre dramatique le gagnait, non seulement il soulevait à brasser tous les amas d'idées émises ou à émettre dans ses romans pour en faire des drames et des comédies à destination de tous les théâtres de Paris, mais il ne reculait même pas, lui, Balzac, maître hermétique en fait d'idées, devant la pensée de demander des idées à d'autres, de leur proposer des associations, des collaborations et surtout des opérations, car chez lui, à l'instant même où une idée venait de paraître, cette idée, quelle qu'elle fût, tournait à l'opération. Voici comment le précipité chimique s'opérait, et c'est lui qui parle ici. L'idée que j'ai là est grande. Elle est brillante et solide. C'est du granit rose. Dans ce granit, nous allons tailler à grands blocs égyptiens une pièce à tableau pour la porte Saint-Martin. J'ai la parole de Frédéric. Avec Frédéric, vous n'en doutez pas, c'est au moins 150 représentations à 5000 francs l'une dans l'autre. Cela fait 750 000 francs, je dis 750 000 francs. Maintenant calculé, à 12% de droits d'auteur, c'est plus de 80 000 francs de droits qui nous reviennent, et je ne parle pas ici des billets sur lesquels Porcher, que j'ai déjà vu, avancera comme d'usage 5 ou 6 000 francs en or fin, je ne parle pas non plus de la brochure vendue pour notre compte à 10 000 exemplaires, à 3 francs l'exemplaire, c'est encore une bague au doigt de 30 000 francs, je ne parle pas... On voit, comme nous venons de le dire, que tout tournait à l'opération chez de Balzac, même avant que l'idée eût la forme insaisissable du germe. Son projet n'était pas encore logé au cerveau qu'il entrait déjà à la Bourse pour y être coté. C'est justement sur la place de la Bourse qu'Henri Monnier, qu'il aimait et estimait beaucoup, lui fit un jour, après avoir écouté l'un de ses calculs magnifiques, au bout desquels il était destiné tous les deux à gagner 14 millions, cette admirable réponse. « Avance-moi 100 sous sur l'affaire. » Nous avons dit que Balzac aurait pris des collaborateurs de toutes mains quand il était mordu de la rage du théâtre. Ce fut dans l'un des accès de la maladie qu'il attira entre autres au Jardy un bon et faible jeune homme nommé Lassailly, esprit flottant et songeur que Dieu depuis a appelé à lui. Balzac avait jeté les yeux sur cette intelligence incertaine pour en faire un collaborateur dramatique, tâche dont le pauvre garçon était aussi capable que d'écrire Eugénie Grandet ou le Lys dans la vallée. À moi comme à bien d'autres, il fut radicalement impossible de deviner quelle raison inouïe avait déterminé Balzac à faire un pareil choix. Raphaël engageant un tailleur de pierre du Transtévère ou un couvreur d'hosties pour l'aider à peindre ses tableaux n'eût pas été plus bizarre. Balzac était tellement sérieux, on a besoin de preuves pour y croire, en appelant Lassailly à l'honneur de travailler avec lui, ou sous Louis, au Jardy pour le théâtre, qu'il passa, avec son singulier collaborateur, un traité pour plusieurs années d'association. Ce traité a-t-il été enregistré ? A-t-il été revêtu des formes légales ? A-t-il même été écrit ? Nous l'ignorons et nous en doutons. Mais il est de notoriété contemporaine que les conditions en furent débattues, réglées, et je puis affirmer avec l'autorité de mes souvenirs et celle des souvenirs de bien d'autres, qu'elles ont joui d'une certaine popularité à l'époque dont nous parlons. Ces conditions étaient que Lassailly, devenu par son étrange étoile le collaborateur attitré de Balzac au pavillon des Jardis pour tout ce qui concernait les ouvrages dramatiques à élaborer en commun, serait convenablement logé, chauffé, éclairé, blanchi, nourri aux frais de Balzac, et que de son côté, Lassailly se tiendrait constamment à la disposition de Balzac afin d'avoir à lui fournir une idée, un projet, un plan, une combinaison dramatique, toutes les fois que besoin serait et que demande lui en serait faite. À l'éloge de Balzac, il est juste de dire que Lassailly fut tout à coup si bien logé au Jardy, si inopinément blanchi et éclairé, si orientalement nourri, qu'il acquit en peu de jours un embonpoint qu'on n'espérait plus de la délicatesse de sa constitution. Balzac, nous le proclamons, s'était donc fidèlement acquitté de la partie de l'engagement qui le concernait. Comment, de son côté, Lassailly s'exécuta-t-il ? Lassailly tendait à s'endormir mollement dans les délices de Capoue. Il se complaisait à ne pas attendre les repas et à attendre indéfiniment les idées dramatiques qu'il s'était engagé à verser à l'association. Ceci ne faisait pas l'affaire du maître, ou, si l'on veut, de l'associé. Balzac réclamait avec toutes sortes de justice la collaboration de Lassailly, et de son côté... Lassailly ne daignait pas à Balzac ses droits et prétentions légitimes. État dubitatif plein de malaise et de tiraillement. En outre, Balzac, ce qu'on sait, ne travaillait guère que la nuit. Et c'est la nuit, vers 2h, 3h du matin, qu'il sonnait impérieusement pour réveiller Lassailly et lui demandait l'exécution de son engagement. Quelle funèbre minute! Le timide collaborateur, déchirant les limbes du sommeil, s'habillait à la hâte, à demi, et un pied chaussé l'autre nu, le bonnet de coton enroulé sur l'oreille, le nez affreusement consterné et l'on sait de quelle consternation Lassailly était doué, il parcourait à pas silencieux, un bougeoir à la main, les pièces désertes qui les séparaient du cabinet solitaire de Balzac. Douloureux trajet. Arrivé au pied du maître pâli par l'insomnie, jauni par les plaques de lumière qui lui cuivraient le front et les joues, car le Balzac aux prises avec le démon de l'œuvre de la nuit n'avait rien de commun avec le Balzac de la rue et du salon, le maître donc lui disait « Voyons, qu'avez-vous trouvé, la saillie ?» Et la saillie, relevant son bonnet de coton, écarquillant ses yeux encore enveloppés de nuages des rêves, balbutiait « Oui, il faudrait trouver... Il serait utile de trouver... d'imaginer quelque chose... Eh bien, avez-vous imaginé ce quelque chose ? Hâtons-nous, la porte Saint-Martin attend, hâtons-nous ! Harel m'a encore écrit hier au soir, hâtons-nous. J'ai vu Frédéric Lemaître avant-hier. Ah ! Vous avez vu Frédéric Lemaître ? Oui, et il est tout à nous. Il a faim, il a soif d'un drame à faire courir tout Paris. Quel sera ce drame qui fera courir tout Paris ? Voilà ! Voilà ! Répétait la saillie, le front plissé par la plus comique contention d'esprit. Avez-vous ce drame, la saillie ? Pas tout à fait, mais vous l'avez donc en partie ? Oui et non. Je vous écoute. J'aimerais mieux que vous me disiez d'abord, murmurait la saillie, ce que, de votre côté, vous avez pu imaginer. Nous fondrions nos deux idées et je suis sûre... La saillie, vous dormez ! Mais non ! Mais si ! Vous dormez debout, vous dis-je. Tenez, vos yeux appesantis se ferment. Mais je vous assure, vous bâillez. C'est de froid, c'est... Allez vous remettre au lit, la saillie, et dans une heure, nous verrons si la muse vous aura visité. Et reprenant son pâle bougeoir, traînant ses pieds dans ses pantoufles, la saillie regagnait, comme une ombre désolée, sa chambre et le lit pliant où il était censé chercher horizontalement le sujet de ce fameux drame destiné à faire courir tout Paris. Courte trêve. Une heure après, nouveau coup de sonnette de Balzac venant fendre de haut en bas le sommeil de l'infortuné La Saillie, qui, réveillé en sursaut, courait, nu-pied cette fois et en simple caleçon de tricot, vers le cabinet de son auguste collaborateur. Il cachait par beaucoup d'empressement, beaucoup de détresse. Là, le dialogue déjà échangé recommençait entre Balzac, toujours réveillé comme un lion, et La Saillie, toujours assoupi comme un loir. On devine que les résultats étaient aussi toujours les mêmes. Balzac voulait à tout prix un drame, la saillie n'en découvrait à aucun prix. Jusqu'à 6 fois dans une nuit, l'excellent mais infécond collaborateur était appelé par son chef littéraire. La situation était des plus perplexes, au physique comme au moral. Enfin, la saillie, quoique de mieux en mieux et de plus en plus chauffée, blanchie, éclairée et surtout nourrie, pâlit, maigrit, tomba sérieusement malade. Ces réveils nocturnes précipités et cette impossibilité absolue d'accomplir des engagements dont il n'avait pas calculé la portée troublèrent même son pauvre cerveau déjà si faible. L'ayant rencontré un jour sur le boulevard de Gand, au coin de la rue Lafitte, et lui ayant dit « Eh bien, les Jardis !»« Oh, les Jardis ! Je les ai abandonnés !» me répondit-il, en levant les bras et les yeux au ciel. Ses yeux qu'il avait toujours remplis d'un brouillard de larmes. Je les ai quittés pour toujours. Mais vous y étiez fort bien, pourtant. Admirablement bien. Quel séjour, quel paysage, quelle existence. Rôti tous les jours, légumes 2 fois par jour, dessert à profusion, et quel café. Mais d'où vient alors que vous avez déserté les Jardis ? D'où vient ? Mais demandez-vous. Mais qui donc aurait pu y rester ? Se lever 6 fois, quelquefois 8 fois par nuit, 8 fois ! Et ce n'est pas tout, inventer le pistolet sur la gorge, le sujet d'un drame qui fasse courir tout Paris. Les forces humaines, continua la saillie en pleurant, ne vont pas jusque-là. Les miennes, déjà éprouvées par tant de vicissitudes et de passions, étaient à bout. De ma vie, je ne remettrai plus les pieds au jardin. Il se tint parole. La saillie non seulement ne retourna plus au jardin, mais depuis le séjour fantastique qu'il y avait fait, il ne prononça plus le nom de Balzac qu'avec une espèce de demi-terreur.